bienvenue à tous et à toutes dans Melting Pop sur Radio Campus Rennes 88.4, l'émission de la pop et de la contre-culture qui chaque semaine vous propose d'explorer un nouveau thème de cette culture bis. Et aujourd'hui on va vous parler des rivaux, des opposés. Je suis Fred et je vous accompagne tout au long de cette émission. Avec moi comme toujours on retrouve Paul.
Salut.
Ça va bien?
Oui, très bien et toi?
Très bien. On retrouve Antoine.
Salut tout le monde.
Passe un bon week-end?
Ça va, ça se passe plutôt bien.
D'accord, très bien. Et à la technique on retrouve Jérém.
Hello, hello.
Ça va bien?
Ça va.
D'accord. Donc aujourd'hui au programme de cette émission, Antoine vous parlera musique, Paul vous parlera cinéma avec Festen, Jérémy parlera littérature avec Voyage au bout de la nuit et je vous proposerai une analyse du duo Batman-Joker dans les comics avant de conclure l'émission en vous parlant du festival de l'Arène Théâtre qui aura lieu du 2 au 14 mars sur le campus de Rennes 2. Mais tout de suite, une petite virgule de transition. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Kill me. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, you. You complete me. You're garbage. When she kills herself. He promised to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company. Voilà, donc pour ceux qui n'auront pas reconnu, c'était des extraits de Whiplash, on vous le conseille vivement, de The Dark Knight et de Black Swan. On revient donc avec Antoine pour la rubrique musique, et de quoi tu vas nous parler?
Du coup, je vais vous parler de deux quatuors qui ont réussi les uns comme les autres à défrayer la chronique musicale de diverses manières. Donc comme tous les porte-paroles d'un style musical qui fit un grand boom dans l'industrie de la chanson, avec encore aujourd'hui le même débat qui est le groupe qui représente le mieux le rock des années 60. Donc d'un côté, nous avons le fameux quatuor de Liverpool, donc The Beatles pour ceux qui ne le savent pas, et de l'autre, non moins célèbre, aussi également anglais, The Rolling Stones. Malgré le fait qu'ils ont tous deux jamais affirmé une quelconque rivalité, ou une rancune envers les groupes respectifs, même Mick Jagger passait même au studio d'enregistrement, dans la Abbey Road. Merci pour cette petite coupure, j'adore, génial, merci.
C'était un nouveau jingle qu'on a voilà. On l'a appelé Basse Virale.
Ouais, c'est ça. Du coup, comme je disais, il n'y avait aucune rancune parce que Mick Jagger, il passait même voir les Beatles au studio d'enregistrement Abbey Road. Du coup, tous les deux ont aussi enregistré au même endroit pour faire partie, comme d'après ses propos, d'une synergie musicale hors du temps, d'après ses propos ou de ceux de son dealer de drogue. Le public ne s'est pas fait attendre pour essayer de confronter ces deux groupes à la volonté d'exprimer une sorte de concept de vie et une vision du monde à leur manière. Ceci est une séparation des Beatles qui contribua à les faire entrer dans une légende, mais aussi en premier lieu qui sonna le coup de glace, car pour les pro-Beatles, c'est aussi le moment où on s'est dit « Ah, du coup, il faut absolument qu'on montre cette légende, c'est les Beatles, c'est le meilleur groupe du monde, c'est les Rolling Stones à côté, bon voilà. » Il y a toujours cette confrontation.
Ce qui est vrai.
Oh, on va pas commencer, s'il te plaît. du coup, voilà, c'est la séparation qui a créé ce coup de glace. Donc l'éventuelle reconstitution du groupe fit beaucoup parler de lui pendant plusieurs années, mais elle s'arrêta net à l'assassinat d'un des membres du groupe John Lennon en 1980, que j'avais déjà abordé du coup pendant ma chronique sur l'attrape-cœur.
Oui.
Car si pour ceux qui avaient oublié, l'assassin de John Lennon s'est retrouvé avec le bouquin de l'attrape-cœur dans sa poche au moment d'avoir tué John Lennon.
Et là je dirais bien Magnéto Serge, mais j'ai oublié de le faire. Voilà donc...
Bravo,
on t'applaudit Fred.
Ah, je crois que t'avais un jingle applaudissement. Ouais, putain, je suis dégoûté, mec. T'avais l'air trop fier de ta vanne. Du coup, elle tombe un peu à plat et c'est naze. Mais ouais, merci beaucoup.
Va te faire foutre.
Rivalité conflit au sein du studio.
Oulala, attention. Ah, je te fouette.
Bon, ça va. Pour être concret, cette rivalité existe depuis plus de 50 ans, après la création du groupe de Mick Jagger et de Keith Richards en 1962. Arrivé après celui de Paul McCartney qui changeait une multitude de fois de nom avant de choisir les Beatles, parce que ce dernier date de 1958, il y a dû avoir au moins 5-6 noms de groupes différents. Il y avait The Silver Beatles, il y avait The Quarry, parce que c'était par rapport à la ville où il habitait. Voilà. Bref, rien d'intéressant. Étrangement, leur confrontation se base sur leur style musical et leur personnalité qui en dégage. Bah, pour moi, c'est un peu un combat inégal puisque les Beatles ne se sont jamais revendiqués comme empereurs du rock et qu'ils ont testé toujours plusieurs styles musicaux en passant par des musiques langoureuses comme Yesterday ou de rock pour Helter Skelter.
Complètement psychédélique comme Yellow Submarine aussi.
Yellow Submarine, oui. Vraiment, je pourrais en faire une discographie totale.
Oui,
non,
mais c'est
ou
sûr,
des ballades très cool. Ouais. J'ai oublié.
Oui. Et Jude?
Non, pas Jude. Bref, allez, va.
Champion d'être en mode question pour un champion. Je suis en mode question pour un champion pour les fans des Beatles. Et Jude, hein, c'est ça?
Bref, du coup, avec une volonté de ne pas être représenté que par un style musical, ils avaient aussi une volonté de se diversifier, de se montrer sous plusieurs facettes pour leur public. Ce qui entraîna une multitude de détracteurs au fur et à mesure de leurs albums, malheureusement. Du coup, à l'inverse, les Rolling Stones, avec plus d'une quinzaine d'albums, sont restés dans le registre rock pur, ce qui profita du coup à la séparation du public des Beatles, qui eux regrettaient l'époque où ces derniers étaient des enfants du rock. Après, tout le monde ne peut pas y gagner, quoi, du coup. Voilà. Pour autant, on ne peut pas les blâmer pour avoir eu la volonté de tester de nouvelles choses. mon humble avis, on peut pas non plus dire Rolling Stones, c'est mal qu'ils aient continué le rock toute leur vie, qu'ils aient fait toujours la même chose.
Non.
Mais on peut pas dire non plus que les Beatles, c'est une connerie d'avoir essayé d'autres choses différentes, du coup. C'est pour ça que je trouve que au niveau musical, c'est un peu un combat qui vaut même pas le coup, en fait. C'est, il y a aucune... oui, vas-y, Fred.
Non, j'ai rien à dire.
Je crois que tu lui lèves le doigt, du coup.
Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont tapés dessus pour savoir qui est le Beatles, oui, ou les Stones les meilleurs. Et ça,
mais
fait vraiment...
Il y a toujours des petites batailles comme ça où de toute façon, personne ne va gagner. C'est marrant, ça a changé, en fait. Dans les années 60, c'était les Beatles et les Rolling Stones. Et maintenant, en 2015, c'est la Xbox One ou la PS4, en fait.
Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est la cause des plus grands conflits dans le monde. Genre, on le sait pas, mais la guerre froide, c'était parce que Gorbatchev, il préfère les Rolling Stones et Kennedy, les Beatles. Oui.
C'était pas Gorbatchev.
Bon, ça va, t'as eu ton bac d'histoire, on est content pour toi.
18, ma gueule.
Bref. Sinon, bon, du coup, en laissant de côté tout ce qui est musical, il y a aussi une question d'image. Donc, d'un point de vue de l'image, le combat est plutôt serré, puisque du coup, la Beatlemania, comme ils l'appelaient dans les années 63-64, où le public se coiffait et s'affublait de tout ce qui faisait référence, du coup, à leur groupe préféré, donc tout ce qui est la coupe champignon.
Champignon. Coupe au bol plutôt, non, parce que la coupe champignon.
Ouais, quand même, c'est même plus une coupe au bol. Ça s'arrête là.
Ça a inspiré le design de Todd dans Mario.
Non, par contre, ça a révolutionné les designs capillaires chez les prêtres. C'était tout comme ça après.
N'importe quoi. Grâce à cela, ils ont permis à des groupes tels que The Animals ou même les Rolling Stones de s'exporter jusqu'en Amérique. Parce que ça, on peut leur admettre, c'est que grâce aux Beatles, du coup, les Rolling Stones et The Animals ont pu s'exporter jusqu'en Amérique.
Animals!
Ouais. Merci.
Pardon. Qu'est-ce qu'il arrive, lui?
Du coup, au moins, on peut leur
grand fan de Animals.
On l'aurait pas remarqué, tiens. C'est bizarre. Donc, les petits chéris de l'Angleterre, du coup, étaient aimés de tous pour leurs images beaucoup plus sages que leur opposant Mick Jagger. Parce que quand on pense au Stone Jack, l'image de la tongue, enfin, du coup, de la langue en anglais, la langue rouge ouverte censée représenter celle de Mick Jagger, qui a été créée par un étudiant en art du Royal College of... On s'en fout. Qui a apparaîtrait sur l'album Sticky Fingers. Voilà, du coup. Donc, en fait, c'est la langue... Tout le monde se rappelle, du coup, de la bouche rouge avec la langue qui sort, qui représente, du coup, tout ce qui est l'univers des Stones, qui a apparu la première fois dans l'album de Sticky Fingers.
Que toutes les poufias portent sans savoir ce que ça veut dire. Oui, on le connaît bien.
Quoique, c'est un petit peu fini, ça.
Ouais, maintenant, c'est fini. Je me souviens qu'il y avait une période au collège où toutes les filles se trimbalaient avec ça, et quand on disait, mais tu sais ce que c'est, elles disaient, je m'en fous, je trouve ça trop beau.
C'était soit ça, soit c'était Nirvana. Hein.
Il
y avait les Ramones aussi.
Le fameux
t-shirt The Ramones.
Non!
Mais bref, du coup, bon, ça va.
J'ai l'impression qu'on est des vieux cons quand on dit ça. Vous vous souvenez des années collège?
C'était mieux avant, c'est clair, de toute façon.
À la belle époque. Mais il y a aussi, du coup, en opposition avec les Beatles, il y a l'extravagance de Mick Jagger qui surgit, car s'il ne chante pas toujours juste sur scène, désolé, voilà, hein, je l'ai dit. Il a aussi un jeu de scène bien à lui, du coup, avec son Jagger Jive, donc du coup, un mouvement de bassin repris par de nombreux fans, et même récemment par Maroon 5 et Christina Aguilera, même si c'est pas ce que j'appellerais une bonne réinterprétation.
Et par moi dans le studio encore plus récemment.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà.
En tout cas,
Jagger, le stéréotype des chanteurs de rock outrancier, gueulard, un peu la Jim Morrison de The Doors. Donc, ça y est, je l'ai dit, désolé pour les pro-stones. Moi je trouve qu'il a tout piqué, mais on se parle. Du coup,
je suis pas fan.
On a un appel de l'amicale des Stones de Rennes.
Je suis pas fan des Stones non plus, donc t'en fais pas.
Bref.
Je trouve qu'ils ont vraiment rien inventé par rapport aux Beatles ou aux Doors.
On parlera après. Dans tous les cas, cette rivalité qui a enflammé la scène musicale est encore, du coup, comme je l'ai dit au début, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, inutile. Enfin, la bataille est inutile, en fait. Puisque les deux groupes ne sont absolument pas comparables d'un point de vue de l'image ou encore moins de la musique. Surtout qu'en soi, les Stones, ça fait 60 ans, 55 ans qu'ils font de la musique, alors que les Beatles se sont arrêtés dans les années 80. Même pas, non, ils sont arrêtés en années 70, parce que du coup, moi, les John Lennon est mort en 83, donc du coup, pour moi, le combat ne sert à rien, même si je préfère les Rolling Stones. Du coup, voilà.
Et comme on dit, pierre qui roule, la masse pas mousse.
C'est le nom des Rolling Stones,
pierre qui roule. Ça m'a rappelé un jeu de mots de ce week-end.
Du coup, les Beatles, j'ai même pas compris le système du truc. Le prénom des Beatles, c'était quoi déjà, ça veut dire quoi?
Les Scarabées.
C'est ça?
Oui. Le Beatles, ça veut dire les Scarabées.
Oui.
C'est pas une blague, un Beatles, c'est un cafard ou un scarabée. Et pour ceux qui ont vu le film Beetlejuice, c'est comme ça qu'il arrive à lui faire prononcer son nom, d'ailleurs. La petite gamine dans le film, on s'en fout, ça.
D'accord.
J'avais deux, trois réflexions à te faire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui critiquent les Beatles comme étant plus commerciels. J'ai un avis dessus, mais vas-y, comme c'est ta chronique, démerde-toi.
Non, mais je pense que c'est vrai. Je pense que les Beatles sont beaucoup plus commerciaux parce qu'ils ont une image quand même assez lisse, parfaite d'enfant sage. Ils ont été quand même été remerciés par la reine d'Angleterre. Ils sont quand même allés en Suède avec une sorte de Beatlemania. Et du coup,
Du coup, pour moi, je pense qu'ils sont plus commerciaux, mais je vois pas où est le mal là-dedans. C'est juste qu'en fait, les Rolling Stones, en contrepartie, on les voit directement comme des. Bah, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mick Jagger et Keith Richards, c'était des genre des personnages. Enfin, c'était des personnages, quoi. Comme il le dit, c'est des jeux de scène. Mmh. Alors que les Beatles, en soi, c'est pour moi, quand tu penses aux Beatles, je vois quatre gamins. Enfin, non, je vois
quatre garçons,
voilà, qui font leur musique tranquillement. Enfin, qui bougent sur scène, genre en mode gauche-droite. Enfin, ils font pas grand-chose, quoi. Mais après, soit plus commercial, non, je sais pas. Mais comparé aux Rolling Stones, enfin, sans quoi que maintenant, en vrai, ils valent autant les uns que les autres.
Hein. Jérém, t'avais un truc à dire dessus ?
Alors, commercial. Peut-être, mais en termes musicaux, ils ont tellement plus apporté à la musique en général, en se diversifiant au niveau de leur genre musical et en créant énormément de choses, en apportant le psyché avec John Lennon, en apportant énormément de choses, même si c'était pas forcément les précurseurs, mais ils ont quand même emmené ça au grand public et ont proposé de la musique grand public, accessible à tout le monde, mais d'une qualité irréprochable.
McCartney avait un truc à dire dessus. Paul McCartney.
C'était pas très intéressant ce que j'avais à dire.
D'accord, mais, très bien.
Donc on va s'abstenir.
Ok. T'en penses quoi, toi, du coup ?
Moi, je préfère les Beatles, mais faut reconnaître qu'ils avaient une image de marque bien plus déposée. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pu percer dans le cinéma, entre autres, et dans d'autres médias comme ça. C'est parce que justement, ils assumaient à fond ce côté commercial. Mais après, ceci dit, moi, je connais moins les Rolling Stones et je les aime un peu moins aussi, mais je trouve qu'ils font de la très bonne musique aussi. Sauf que les Beatles, ils ont voulu essayer d'être toujours en mouvement, même peut-être un peu trop. Moi, j'aime pas du tout leur période psychédélique, par exemple. Et au final, c'est peut-être ce qui les différencie le plus l'un des l'autre. Et je pense qu'en effet, c'est peut-être un débat qui ne trouvera jamais de fin.
Bah, du coup, c'est ça. C'est comme tu disais, genre par exemple, les Beatles, ils ont fait des comédies musicales, tu vois. Par exemple, ils ont fait des films,
ouais,
ils ont
qui fait des pas mauvais, en plus.
Ils ont fait des tournées mondiales.
Et bon, on rappelle qu'ils auraient pu jouer dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pas une blague. Ils voulaient acheter les droits à Tolkien. Et ça aurait été John Lennon en Gollum, Paul McCartney en Frodon.
Ringo Starr en
Gandalf.
Non, Aragorn.
En Aragorn. Je pense que j'aurais joué en voyant ça.
Le gros ego trip de Starr.
Au moment d'affronter le Balrog, tu vois Ringo Starr. Oulala, je te chante une chanson.
D'ailleurs, c'était pas Michael Jackson qui avait voulu ou acheté les droits des Beatles.
Non, mais il avait voulu faire un film Peter Pan, et c'est pas une blague par contre.
Mais je crois qu'il voulait aussi s'approprier les droits des Beatles.
La blague. Vous savez qu'il y a une théorie d'Apple qui dit que si Steve Jobs a choisi le logo d'Apple, c'est parce qu'il était un fan des Beatles, dont le logo du studio d'enregistrement était une pomme.
Et il y a aussi une autre théorie par rapport à Apple, que c'est la pomme qu'a mangé Turing quand il est mort.
Voilà, tu vois, c'est incroyable. Et aussi dernière petite... Cendrillon. Qui a bouffé son soulier de verre et du coup, le logo d'Apple, c'est un soulier cassé.
Je vous emmerde, quoi.
Il y a un autre truc, c'est que tu sais que Justin Bieber s'est réclamé comme héritier des Beatles.
Lol. Oh, les One Direction aussi. Ouais. Non, en même temps, moi je trouve quand même que les One Direction, c'est un petit peu les Beatles des années 2010.
Hein. Ah, j'ai l'amical des Beatles de Rennes.
Tu te rappelles
Non, mais pas musicalement, mais par contre, quand tu voyais les concerts des Beatles, tu voyais des groupies qui gueulaient comme des hystériques.
Ah oui.
Là, c'est exactement le même truc.
Mais non, justement, pour faire un petit truc à One Direction, eux, c'est ce qui s'est passé, ils ont sorti une musique. Et en fait, ils ont repris les simples, les beats, en fait, les sons de
samples,
les samples de The Who.
Quand tu dis les beats, ça me perturbe un peu. Voilà.
Ok. Donc du coup, je disais, t'as vu un amas de fans des One Direction qui ont dit, mais c'est qui ces Who ? C'est trop de la merde. Ils ont copié One Direction.
C'est qui les Who ? C'est qui les Who ?
Ouais. Enfin bref, quand tu dis que les mecs, enfin ils savent même pas qui sont les Who et en plus ils viennent critiquer en disant que c'est eux qui les ont copiés, quoi.
Oui, bah c'est un petit peu comme quand il y a eu le duo avec Kanye West et Paul McCartney où les gens ils ont dit, ah c'est bien, Kanye West il aide
des petits artistes,
mecs à sortir.
Ah putain.
Lol.
Ça c'était un scandale.
Mais toi tu vas mourir.
Et c'est con. Parce que le morceau est superbe.
J'ai même pas écouté.
Alors
Kanye
franchement,
West, ça me donne envie de vomir.
Franchement, écoute, le morceau est superbe.
Ah, mais mes oreilles vont saigner, je pense que.
Je dirais chose.
Non, mais on va peut-être passer à autre chose, c'est pour ça. Parce qu'on veut, voilà. Mais
si je t'emmerde.
Ok, ouais, tu m'emmerdes, je te confirme. Mais Antoine, oh là là.
Je me casse.
Mais reviens. Donc merci en tout cas Antoine pour ce rappel de la rivalité Rolling Stones Beatles. Donc on vous conseille de l'écouter pour vous faire un avis, c'est toujours mieux. En attendant, qu'est-ce qu'on va s'écouter, mon petit Toinou ?
Bah, du coup, vu comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plus pour Rolling Stones, du coup je vais mettre Sympathy for the Devil.
Vendu. Et on se retrouve après avec Paul qui va nous parler cinéma.
J'adore cette musique.
Around for a long, long year. Stole me. slightest moment of doubt or pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys?
Wow.
Le cut sympa.
Oh putain.
Tu fais attention à tes cuts.
Ça fait un big cut, mec.
Non, c'est pas moi, c'est la musique qui coupe comme ça d'un coup. Donc okay.
On en est mort d'enregistrer.
Allez,
on revient après Sympathy for the Devil de Rolling Stones. Donc,
et une coupure
avec,
sympathique.
Et une coupure tout à fait naturelle. Mais tu peux laisser mon casque tranquille, ouais. Tu m'emmerdes. Avec Paul qui va nous parler cinéma avec Swag. Et de quel film précisément?
Eh bien, quand ce bon vieux Fred que tu es m'a donné le thème de cette semaine, de suite je me suis dit, grands affrontements, rivaux, peut-être un truc de super-héros, un film d'action, mais non, que nenni. Après une intense et longue réflexion avec moi-même, qui n'a pas été si intense et a duré approximativement 5 minutes, j'ai décidé de vous parler d'un film qui parle d'un affrontement familial. Ah, la famille. Les films qui parlent de famille sont très nombreux, certains en parlent avec joie, d'autres avec tristesse, et d'autres sont juste complètement glauques et vous mettent mal à l'aise pendant 1h45. Figurez-vous, mes petits coquins, que je vais justement vous parler d'un film qui met très mal à l'aise. Le film en question, c'est Festen. Festen est sorti en 1998. Il a été réalisé par Thomas Vinterberg, qui est aussi l'auteur du génialissime film La Chasse, avec Mads Mikkelsen, acteur que tout humain normalement constitué se doit de vénérer. Au niveau du casting, on trouve entre autres Henning Moritzson, Ulrich Thompson ou encore Thomas Bo Larsen, qui joue d'ailleurs un des amis, entre guillemets, du personnage principal dans La Chasse. Petite chose à savoir, Thomas Vinterberg, foutu danois, réalisateur danois, fait de ce film le premier film labellisé Dogme 95. Qu'est-ce que le Dogme 95? Vous savez ce que c'est?
Non.
Non? Ah ouais? D'accord, bon bah je vais vous apprendre un
alors,
truc
qu'est-ce
alors.
Qu'est-ce que le Dogme 95?
Le Dogme 95, c'est un mouvement cinématographique lancé par Lars von Trier et Thomas Vinterberg. Fred s'étouffe, mais c'est pas grave, je vais continuer, on s'en fout, ça va aller.
Je t'ai avalé mon vomi quand t'as dit Lars von Trier.
Attends, je leur dis, Lars von Trier. Qui régit un certain nombre de règles à respecter dans un film. Je vais pas vous faire toutes les règles, mais je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, le tournage doit être fait sur place, aucun accessoire ou décor ne doit être amené. Le réalisateur ne doit pas être crédité, ça c'est de la sacrée branlette d'ailleurs, je trouve. Ou encore, la caméra doit être portée à la main, tout mouvement ou non-mouvement possible avec la main, avec la main est possible, donc sous-entendu que tout mouvement ou non-mouvement impossible avec la main est impossible. Le Dogme 95 est donc une liste de codes assez stricte, dont le but principal, en tout cas c'est l'idée que je m'en fais, est de réaliser un cinéma profondément réaliste, sans tabou et sans artifice. Je parle comme un mec de Télérama, c'est flippant. Je vais leur donner mon CV, je pense.
C'est trop ta vocation.
Ouais. Ouais, ou aux Inrock.
Qu'est-ce que vous avez fait venir ici? Ben, j'aime pas votre journal, donc je suis nu naturellement.
Ah bah c'est normal, hein. Comme tous les autres. Revenons donc au film. Eh bien, si Feston est le premier film labellisé Dogme 95, il illustre vraiment très bien ce mouvement. On y aperçoit en effet une caméra portée à la main, assez instable, aucun filtre optique, un décor naturel. En l'occurrence ici, un manoir. Mais de quoi ça parle? Feston, c'est l'histoire d'un chef de famille, Helge Klingelfeld, qui fête ses 60 ans. Toute la famille, les copains, se retrouvent dans le manoir. Tout semble se dérouler à la perfection, mis à part les quelques engueulades, ou encore un des fils qui frappe allègrement sa compagne. Et forcément, pour rendre les choses encore plus joyeuses, puisque c'est l'anniversaire du vieux, les fistons sont chargés de faire un petit discours. Et c'est alors que Christian, le fils aîné, va balancer quelques petites révélations. J'ai un peu hésité à vous parler de la révélation en question, puisqu'elle tombe pas du tout à la fin du film, mais finalement je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant de vous laisser voir ça de votre propre chef. Sachez juste que ce film met en scène comme jamais les conflits, les affrontements familiaux, et qu'il y a une histoire d'inceste. Et les révélations de Christian.
Ah, c'est Game of Thrones sans dragon, quoi.
Ouais, c'est un peu, ouais.
Et sans épée.
Et sans nain.
Ouais, sans nain. Je vérifie au cas où, non mais on sait jamais. Hein.
Et sans décapitation.
Les Danois, ils sont un peu... Bref. et les révélations de Christian sont importantes, mais aussi tardives, d'une certaine manière, ce qui engendre un énorme conflit face à la crédibilité de son discours au sein de la famille et de leurs proches. Certains sont outrés, mais beaucoup ont du mal à le croire, ce qui crée un malaise assez incroyable. Et je dis ça en dansant, c'est génial. Et comme je le disais au début, oui, Feston vous met incroyablement mal à l'aise, déjà par les termes très lourds qu'il aborde, l'inceste, les violences conjugales, mais cela se ressent encore plus par la réalisation de Thomas Vinterberg qui propose une immersion totale dans cette famille qui laisse presque penser qu'au lieu d'être un spectateur, vous êtes un des convives assis autour de la table. Et ça, c'est vraiment puissant. Mmh. À regarder.
Alors je voulais juste rajouter, donc déjà on rappelle aux auditeurs qu'on a déjà parlé de La Chasse dans deux émissions il me semble. Donc
on l'a jamais vraiment...
Non, on l'avait jamais évoqué, ouais. Mais on en avait déjà parlé. Aussi le principe dont tu parlais de conflit familial qui explose suite à une révélation un peu gênante, ça m'a rappelé la série australienne excellente qui a d'ailleurs eu des récompenses et qui est une mini-série donc on n'aura qu'une seule saison, donc là elle est finie, La Gifle. En fait, qui reprend l'idée de base de ce que tu dis, c'est l'histoire d'une famille qui, lors d'un barbecue où tout semble bien se passer, où les apparences sont magnifiques et tout, va voir en fait toutes les révélations tomber et la famille progressivement se fissurer suite au fait qu'un des amis de la famille met une claque à un de leurs gosses pendant le barbecue en fait. Oh. Et ça suit donc les répercussions de cet acte d'apparence anodine sur le cocon familial.
Bah, c'est intéressant ça.
Et ça me rappelle un peu le concept de ce dont tu es en train de parler. Donc en tout cas, alors les gars, des retours peut-être?
Alors moi j'aime beaucoup Vinterberg. J'ai pas vu Feston.
Hyper bien. Et d'ailleurs, il est prix du jury de Cannes 98.
Ça me choque pas. Enfin, Vinterberg, le mec, tu lui mets, il a de l'or dans les mains quand il tient une caméra.
Exactly.
Il a fait quoi d'autre du coup,
Vinterberg? Et alors, bah déjà, il a fait donc La Chasse.
La Chasse, il a fait Submarino que j'ai pas vu et je sais plus.
Ouais, c'est trop de mémoire, mais enfin.
Il réalise toujours ou pas?
Oui.
Ah oui, bien sûr.
Ah
oui, ouais, oui. Il a la quarantaine, 48 ans.
C'est tout ?
Ouais.
Putain. Ouais.
Et ça fait partie des réalisateurs qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui sont vraiment très talentueux.
Ouais.
Oui. Et après, Fred ne supporte pas Lars von Trier, mais Lars von Trier est aussi un très grand réalisateur, quoi qu'on en dise.
Bon, je crois que tu avais aimé Lars von Trier.
Lars von Trier, le film sur sa vie, réalisé par Lars von Trier.
Nymphomaniac.
Oui, j'ai bien aimé Nymphomaniac.
Bah alors, mais pourquoi tu l'aimes pas, Lars von Trier ?
J'aime pas Lars von Trier parce que c'est un cinéma qui me parle pas, que je n'aime pas le personnage du réalisateur en lui-même déjà. Et je pense qu'en fait, c'est un cinéma pour moi qui a tendance à trop se regarder et à jouer sur l'esthétisme plutôt qu'aller au fond des thèmes qu'il explore, notamment par exemple dans Mélancolia. En effet, pour moi, Mélancolia, le principal défaut du film, c'est qu'il avait une base que j'adore, que je trouve absolument incroyable, une façon de traiter la fin du monde comme je n'avais jamais vu avant. Mais malheureusement, pour moi, il s'attache trop à faire des belles images et pas assez à raconter son histoire. Alors que je trouve que justement, dans Nymphomaniac, il gomme ce défaut. Et j'espère qu'à l'avenir, dans ses prochains films, il fera de même. Parce que dans Nymphomaniac, l'image est au service de l'histoire et vice-versa. Et il va vraiment jusqu'au bout de son concept, même pour des fois des scènes très trash. Je pense notamment à la scène qu'on ne va pas spoiler de fin entre Charlotte Gainsbourg et j'ai oublié l'acteur qui joue.
Chalabeuf.
Non, l'acteur qui joue le vieux qui l'accompagne tout le long du film. Il a un nom danois. Qui est le héros. Enfin, il joue dans Thor, il joue dans plein de films comme ça. J'ai oublié son nom.
Matt Mikkelsen ?
Non, c'est pas Matt Mikkelsen. Je retrouverai une autre fois.
En tout cas, ça fait partie des Vinterberg et von Trier d'ailleurs. Ça fait partie des petits réalisateurs danois qui font j'allais dire l'âge d'or, non, faut pas déconner non plus, mais la bonne santé du cinéma danois quand même, parce qu'on a depuis fin des années 90, je dirais, vraiment trois piliers, donc Lars von Trier, Thomas Vinterberg et Nicolas Winding Refn.
Il est danois, Refn, ou il est suédois?
Non, il est danois. Il est danois, justement, il avait fait un film, la trilogie Pusher, qui est excellente, ça se passe à Copenhague. Et voilà.
Voilà, ça suffit pour dire qu'il est danois.
Voilà, c'est ça.
Pour ajouter un petit truc par rapport à Nicolas Wendy, justement, juste une petite info qui vient juste de tomber, c'est que, en fait, sa femme, Nicolas Wendy, a décidé de le prendre en vidéo. Et en fait, du coup, elle a fait un documentaire sur son mari. Et comment ça se passe sur le tournage dans sa vie privée. Tu vois son mari, comment il est avec ses enfants, avec Ryan Gosling sur le tournage de Drive. Et comment est un vrai réalisateur vu par sa femme dans la vie de tous les jours.
Il doit être un peu fou en plus, ce mec.
Ah ouais, j'ai vu des extraits,
tu l'as dit,
violent.
Ce mec-là, ça se ressent dans ses films de toute façon. Dans League of Forgives, tu te dis le mec, il est pas... Oui. Et d'ailleurs, prochain film, ce sera un film d'horreur, apparemment, avec, je sais pas avec qui, mais en gros, genre, ça parle plus ou moins de domination féminine, etc.
Ouais. J'ai vu passer
et ça a l'air vachement cool. Je sais pas quand ça sort, mais vraiment à voir.
Normalement, je crois que c'est fin de l'année.
J'ai hâte de revoir un film de Refn parce qu'il est vraiment excellent, ce mec.
Jérôme, t'as un truc à dire?
Non, pas grand chose. Je suis juste un gros fan de Refn. Allez voir toute sa filmographie, c'est génial. Et Only God Forgives, c'est quand même le film le plus sous-estimé de ces 10 dernières années.
Je pense qu'on en reparlera dans quelques années, en fait. Ça fait partie des films qui ont été mal reçus. Et en même temps, c'est pas un film qui est très accessible non plus. Donc je peux comprendre que ça rebute.
Malheureusement, pas très accessible.
C'est volontairement pas très accessible. C'est lent,
mais pas long. Parce que ça dure 1h20, je crois, un truc comme ça. Et ce qui fait que certes, c'est contemplatif, etc. Mais il y a vraiment quelque chose dans ce film, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu trop eu de...
C'est rouge.
C'est très rouge.
Tu veux dire quelque chose, Antoine ?
Ce que je disais par rapport à Nicolas Nick, c'est que lui, c'est son esthétisme de base. Drive, c'est bleu. Ouais. God Forgives, c'est rouge. Et
Valhalla Rising,
c'est... Beyond the Pine, c'est pas lui qui l'a fait.
Non, mais Valhalla Rising, c'est hyper désaturé. En fait, c'est gris. Statique très proche à tous ces films, en fait.
C'est hyper gris de Valhalla Rising. Les teintes qui dominent le plus, c'est le gris et le marron un peu
sale. C'est super désaturé, en fait. Et les grandes étendues vertes.
Pour revenir au documentaire, on le voit vraiment comme il est. Tu vois même Ryan Gosling comme il est avec ses enfants. C'est vraiment...
Je te jure que quand tu dis comme ça, on dirait que c'est son fils, Ryan Gosling. Et c'est super perturbant.
Tu le vois, en fait, avec sa femme, ses enfants. Ryan Gosling qui joue avec ses enfants, tout ça, pour déconner, et tout ça, et tu le vois.
Genre, il se le balance sur. Il s'envoie le gosse, tu vois.
Bon, on écoute un peu de punk ?
Bah, tu vas te calmer, oui. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on s'écoute, mon petit Polo ?
On va écouter Votez pour moi de Brigitte Bop, un petit groupe de punk. Les gens d'Orléans.
Orléans.
Les
connards.
Voilà. Oh, de suite. Non, un groupe d'Orléans qu'il faut écouter, c'est vraiment excellent ce qu'ils font. Voilà.
Et on reviendra juste après avec Jérémy qui va me laisser finir et la rubrique littérature.
Gros débile, pur. Branleur de mes deux. Gros bourrin à bite molle. Bourrin à bite molle. Avec un S. Matière fécale, matière fécale, lancée, pensée, déguidée.
congé raté, mais bien mérité. Demain, pire qu'hier pour les loyers modérés. Le troupeau malade vit son berger vers l'abattage légalisé. Le bétail recyclable, la pélisse et les supermarchés.
Brigitte Pop, votez pour moi sur Radio Campus Rennes 88.4 dans Melting Pop. Je rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur tous les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter. Alors n'hésitez pas à nous donner des retours et aujourd'hui on parle rivalité. Et c'est la rubrique littérature, la première de cette émission France Culture, parce qu'encore une fois on va avoir deux rubriques littérature. Jérémy, tu vas nous parler de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je trouvais ça très intéressant parce que tu nous parlais tout à l'heure de Lars von Trier et tu disais ne pas aimer le personnage, donc ne pas pouvoir aimer son œuvre. Et donc il y a beau...
Juste me permettre de t'interrompre, c'est spécifique à Lars von Trier parce que j'ai du mal à détacher les messages qu'il passe dans son personnage de son œuvre.
D'accord. Voilà.
Mais j'ai le même sentiment pour Céline, en effet.
La question sera là. Donc il y a beaucoup d'exemples de rivalité dans la littérature, de personnages dont les auras se battent en duel, et cette fois-ci à coups de lettres et non pas de sueur. On pourrait parler de Edward et de Jacob dans Twilight, mais je l'ai déjà fait.
Ah non, hein.
On pourrait aussi parler des grandes épopées grecques ou Tolkienienne, je fais des néologismes, qui regorge de ce genre, qui regorge de ce genre de dualité, mais non, ça me fait chier, donc aujourd'hui on va parler de Proust.
Quoi ?
Non, je déconne.
Ouais, parce que là,
on va parler d'un auteur qui est très controversé. Puisqu'on
tu
va...
fous en l'air mon déroulé, je t'égorge comme un cochon. C'est clair ?
Donc aujourd'hui, on va parler d'un auteur très controversé, puisqu'on va parler de Louis-Ferdinand Destouches, a.k.a. Louis-Ferdinand Céline, a.k.a. Céline. Qui est né en 1894 et mort en 1961, vainqueur du prix Renaudot en 1932, qui a d'ailleurs loupé le prix Goncourt à deux votes. Voilà. Donc le monsieur est un des personnages les plus duals qu'a connu la littérature française et embrase encore régulièrement aujourd'hui les débats pour savoir si l'on doit occulter son passé de collabo antisémite pour ne garder que son génie littéraire. Le mec a quand même inventé une langue suffisamment littéraire pour gagner le prix Renaudot et être perçu comme un des plus grands auteurs de sa période en s'inspirant de l'argot parlé des banlieues parisiennes. Chapeau. Ouais. Mais quand ce dernier est cité par le président de la République comme un des plus grands auteurs français, ses détracteurs, en dehors de ceux qui disent que c'est de la merde la façon dont il écrit, sacrée minorité quand même, hurlent au collabo.
C'est de la merde la façon dont il écrit.
Hurlent au collabo, chose qu'il était, à l'antisémite. Revendiqué et refuse qu'un auteur qui écrit des pamphlets contre les juifs, qui a écrit des pamphlets contre les juifs, puis a négationné, je fais encore des néologismes, la Shoah avant de se rétracter,
écrit un livre,
la Shoah avant de se rétracter, soit perçu comme un des plus grands auteurs français. En vrai, je peux comprendre. Au final, Céline, c'est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde de la littérature. Après, la question ouverte que je pose, c'est est-ce qu'on peut condamner un auteur de cette envergure pour ses actes? Au début de l'émission, Fred disait que j'allais parler de Voyage au bout de la nuit, et donc je vais le faire.
Bah c'est bien, voilà. Tu respectes ce que je dis, c'est cool.
Parce que du coup, il est bon, tu parlais de quoi là?
De Louis-Ferdinand Céline.
C'est celui qui a fait...
Celui qui a fait Voyage au bout de la nuit,
coup,
mais je ne parle...
depuis le début.
Bah mais pas non. Du tout, c'est pas parce que tu parles d'un auteur que tu parles de l'œuvre qu'il a écrite.
Enfin, tout ça, c'est la plus connue quand même.
Merci Antoine. Oui,
un gros blanc.
Merci Antoine. Donc, Voyage au bout de la nuit, donc c'est le bouquin de Céline, mais c'est aussi le bouquin qui représente le mieux l'angle dont je traite la notion de rival. Céline, c'est une espèce de double face. D'un côté, le génie littéraire et de l'autre, le connard puant. Dans Voyage, son personnage principal, Bardamu, est une espèce de projection de lui-même. On a donc face à nous un des personnages les plus sales, les plus mauvais de la littérature française. Bardamu est méchant, misogyne, raciste au plus haut point, mais pourtant c'est un des hommes, si ce n'est le plus intelligent de son univers. Par son écriture, Céline tranche encore plus dans le vide de la crâneur de l'humain, il racle le plus profond de la noirceur humaine, et montre à quel point un homme, bien qu'intelligent, est bon au début, s'il se laisse aller à ses bas instincts, peut devenir pire encore qu'un animal. Bref, la question est posée, le némésis ultime de l'humain ne serait-ce pas lui-même?
Télérama ! Non, bravo, mais c'était une très belle conclusion. D'ailleurs, ce que tu disais, ça me rappelle en fait ce qu'on avait déjà évoqué sur Velo de Tuna et de Coucou, l'idée d'un personnage qui est en fait horrible et pourtant c'est lui que le lecteur va suivre et qui va être le personnage principal du roman, alors que pourtant c'est une vraie ordure. On va presque finir par l'oublier en fait que c'est une ordure au fur et à mesure du roman parce qu'il se bat contre pire que lui en fait.
Oui, alors ça, dans Voyage au bout de la nuit, on n'oublie pas que c'est une ordure.
Non, on n'oublie pas parce que c'est bien souligné, c'est ça justement le principe.
C'est pour bien montrer ce mec-là, c'est un connard, ça restera un connard, l'humain est un connard, l'humain est sale. Mais. En même temps, il y a quand même des moments où...
Surtout au chalet.
Il y a quand même des moments où c'est vachement plus lumineux et il y a vraiment cette espèce de truc duel parce que d'un côté, c'est quand même un pacifiste qui refuse de se battre, ouais. Ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Mais de l'autre côté, voilà, c'est le mec qui va faire en sorte de prendre des esclaves. Enfin, il est vraiment dégueulasse et je me demande vraiment, c'est-à-dire en dehors de la chronique que je viens de faire, c'est est-ce que... Dans notre vie de tous les jours, notre plus grand ennemi, ce serait pas nous-mêmes.
Oh, c'est beau ce que tu veux dire. Et du coup, parce qu'on va commencer à être un peu short niveau time.
Moi, je dirais bien que l'enfer, c'est les autres. Hein, après.
Je dis pour.
C'est
pour
toi, ça, non?
Pour couper.
Bankrupt Battle of History.
Je sais, merci. C'est justement
pour couper, les gars, et pour. Du coup, on va être un peu juste. Moi, je conclurai juste en disant qu'une des plus grosses problématiques que Céline représente, c'est est-ce qu'on peut dissocier les idées d'un artiste de son œuvre? Voilà, c'est à méditer.
On pose les questions à Clint Eastwood.
Voilà, et ça serait pas mal, parce que c'est faux, c'est pas faux. C'est quand même le seul mec qui a écrit un truc contre le port des armes et qui s'est autoproclamé pour le port des armes, ouais. Clint Eastwood.
Ah, bah, on l'appelle aussi,
dans le milieu, on l'appelle le paradoxe vivant. Bref. En tout cas, merci Jérém pour cette chronique. Oui, on rappelle du coup Ferdinand Céline, donc Céline Voyage au bout de la nuit, qui a fait l'objet d'une œuvre à cinématographique. Et savez-vous, c'est laquelle d'ailleurs? Parce qu'elle est très connue et elle s'appelle pas Voyage au bout de la nuit, c'est une adaptation.
J'en ai aucune idée.
C'est un film sur la guerre de Vietnam.
Vous pouvez mettre la jaquette?
Non.
Voyage au bout de l'enfer.
Voilà.
Oh, hey, j'ai gagné quoi?
T'as rien gagné.
Oh.
T'as gagné le droit de rester.
Donc Voyage au bout de l'enfer
a été écrit comme une adaptation de Voyage au bout de la nuit.
Qui est génial d'ailleurs.
C'est pas faux, oui. Oui, c'est pas faux en plus. Oui, tout à fait. Tout à fait.
C'est toujours ça, voilà. À apprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on va s'écouter tout de suite, Jérém?
On va s'écouter Who Did That to You de John Legend, extrait de la BO de Django Unchained.
Très bien. Django. Pas le dire comme ça.
Call the police, have the warrior walking down.
Oui, mais je sais très bien, merci. John Legend, Who Did That To You, disponible sur la BO de l'excellent Django Unchained de Quentin Tarantino. Tout de suite, on va parler comic book et plus précisément de Batman. On connaît tous ce personnage de Batman créé par Bill Finger et Bob Kane en 1939 dans le Detective Comics numéro 27. Il est l'un des premiers super-héros avec Superman et comme son collègue kryptonien, il est l'une des figures de proue de la concurrence de Marvel Comics, à savoir DC Comics. Le grand public connaît majoritairement ce personnage à travers la trilogie de Nolan, sortie dans les années 2000 et plus particulièrement à travers The Dark Knight, qui proposait une lecture bien plus réaliste et sombre de la figure du super-héros. À travers une métaphore filée d'une Amérique post 11 septembre et du régime Bush, si ce film a contribué à repopulariser le personnage après sa perte de popularité des années 80 à 90, conséquence des deux suites au film de Burton, à savoir Batman Forever et surtout Batman et Robin, qui donc faisait suite à Batman et Batman le défi, et qui avait déjà contribué à remettre au goût du jour le personnage du Caped Crusader, c'est en grande partie dû à la popularité du personnage du Joker dans le film incarné par le regretté Heath Ledger que le film est aussi connu du grand public. Le Joker, personnage antagoniste le plus culte de Batman, a tout comme lui connu une évolution assez impressionnante depuis sa création dans Batman numéro 1. En effet, dans les années 80, et notamment grâce à Frank Miller et Alan Moore, tandis que le personnage de Batman passe d'une figure délavée, paternaliste et moraliste à celle d'un personnage complexe, ultra-violent et qui représente cette idée de la justice personnelle là où la justice traditionnelle ne peut rien, métaphore à peine cachée de la lutte contre le terrorisme mais aussi de la lutte contre une époque de plus en plus violente et remplie de menaces qu'on ne peut pas combattre, le Joker passe du côté du rôle de bouffon un peu ridicule, presque apport comique dans les premières apparitions du personnage, à un personnage de psychopathe qui tue et qui est un vrai chien fou, réussissant pour la première fois dans l'histoire du comics depuis la mort de Gwen Stacy par le bouffon vert dans Spider-Man, à tuer des alliés proches du Chevalier Noir comme Robin, dans Une mort dans la famille. C'était la première fois qu'un sidekick, donc un assistant de super-héros, trouvait la mort dans un comics, ou encore Barbara Gordon, autre allié du super-héros, qui sera paralysé après avoir été violé par le Joker dans le Super Killing Joke d'Alan Moore, qui est d'ailleurs le seul comic book qui est un graphic novel, c'est-à-dire pas vraiment un comic book, un truc qui est hors continuité, mais qui est plus basé sur une histoire racontée par les images avec des longs pavés de texte comme Watchmen par exemple, et c'est le seul comic book de l'histoire des comic books à avoir été intégré dans la continuité générale de l'univers. C'est-à-dire que les événements du graphic novel font partie de ce qui se passe après dans l'univers. Voilà. Le Joker est le premier méchant qui, dans son duo avec Batman, incarne un méchant presque plus psychologique que physique, incarnant la psychopathe ultime qui n'a pas de but et qui ne cherche qu'à provoquer le chaos et l'anarchie, comme le disait bien Heath Ledger dans The Dark Knight. Si ce duo est si spécial et incarne si bien la rivalité, c'est parce qu'il se pose comme un miroir des paradoxes de Batman. Un homme qui n'a d'autre but que de saboter les gens, là où Batman veut les sauver, de les faire succomber à leur côté noir, là où Batman doit de faire comprendre aux citoyens de Gotham qu'ils peuvent être bien meilleurs que ce qu'ils sont. Dans The Dark Knight, il met ainsi parfaitement en exergue le paradoxe de Batman, qui veut débarrasser la ville de violeurs et de meurtriers, mais qui n'est pas prêt à tuer. Si le Joker se pose comme l'ennemi de Batman parfait et vice-versa, c'est parce qu'ils se comprennent parfaitement. Batman ne cherchant pas à tuer le Joker pour s'en tenir à son code d'honneur, là où le Joker ne tue pas Batman pour pouvoir le pousser à franchir le pas et s'assumer comme fou. Car comme il le dit si bien au commissaire Gordon dans Killing Joke, le Joker sait qu'il suffit d'une mauvaise journée pour rendre Marteau le plus saint des hommes. Car si le Joker est considéré comme fou à cause de ses actes, que dire d'un homme qui se déguise toutes les nuits en chauve-souris pour combattre les criminels? Et c'est la question que pose en permanence le duel du Joker et de Batman. Le Batman et le Joker, c'est aussi avant tout des idées presque plus que des personnages. Les deux faces d'une même pièce qui incarnent l'utopie et l'anarchie. Ainsi, peu importe la période, les origines du Batman restent les mêmes, ainsi que ses objectifs et son combat, son code d'honneur, représentant sa stabilité et sa détermination dans la justice, image donc de l'utopie, même désespérée, là où celles du Joker ne sont jamais claires, même pour lui, et c'est où ses objectifs varient en permanence, anarchiques jusqu'au bout. Ce point de vue que le Joker est plus une idée chaotique qui existe pour mettre le Batman face à ses propres paradoxes est particulièrement visible dans les films de Tim Burton, Batman, et dans The Dark Knight. La dernière série d'aventures du Chevalier Noir, Endgame, sortie en comics, nous propose une nouvelle origine possible au personnage du Joker. Il serait immortel et aurait toujours existé à Gotham, rendant le personnage comme une incarnation encore plus claire de l'idée abstraite d'anarchie et de chaos combattu par le Chevalier Noir. Joker nous rappelle qu'un héros se mesure à son vilain, comme la qualité de ses histoires. Et je vous conseille de lire, si vous le pouvez, Batman Death in the Family, Batman Killing Joke, Dead Family, The Dark Knight Returns, et de voir la trilogie de Nolan et le film de Burton. De retour, je sais pas.
Non, je pense que t'as tout dit.
Oui.
En plus, t'es celui qui s'y connaît le plus en comics et tout. Donc,
vous avez vu The Dark Knight, les gars? Forcément, je pense.
The Dark Knight, oui. Pour moi, c'est le meilleur film de super-héros, entre guillemets. Parce qu'en fait, déjà, j'ai du mal à considérer Batman comme un super-héros. Pour moi, c'est plus un justicier.
Ah, c'est le grand débat depuis la création du personnage.
Ouais, et en fait, ce que j'aime vraiment beaucoup avec The Dark Knight, c'est que c'est pas un film sur Batman, c'est un film sur le Joker.
Ouais.
C'est vraiment. Et puis bon, après, ça a peut-être été accentué aussi par le fait que Heath Ledger soit décédé à la fin du tournage. Mais il y a tellement une présence du rôle du Joker qui. Enfin, c'est, pour moi, en tout cas, c'est un des meilleurs rôles que j'ai pu voir au cinéma. D'ailleurs, c'est le film qui m'a intéressé au cinéma. Et voilà, enfin, c'est ce qui fait vraiment la grosse force de ce film, c'est qu'on a vraiment un super vilain qui a un charisme de malade. J'ai pas vraiment retrouvé ça en fait dans les autres films de super-héros. Pas à ce point-là, en tout cas.
Ouais, c'est vraiment l'adaptation la plus incarnée d'un personnage aussi, on va dire, aussi extrême, parce qu'il y a des personnages qui sont très intéressants au cinéma, mais un personnage aussi extrême incarné de cette façon-là, il n'y en a pas 12 000, quoi.
C'est vrai. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était la première fois depuis très longtemps que, que le personnage a tellement fait sensation dans le film que les auteurs de comics et les dessinateurs ont changé l'apparence et la façon d'être du personnage pour correspondre à Heath Ledger. Mmh. Et ça n'avait pas été fait depuis la prestation de Hugh Jackman en Wolverine. Voilà.
Ouais. Mais Heath Ledger joue tellement bien son rôle que ça l'a tué, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Enfin, tu te dis qu'en fait, clairement, c'est ça qui l'a tué. Enfin, il l'a tellement joué à fond. D'ailleurs, il y avait eu un mini reportage sur Arte, je crois, de quelques minutes où en gros ils expliquaient comment il avait développé son personnage et comment en gros il avait un carnet. À la fin, c'était écrit bye.
Ouais.
C'est vachement glauque.
C'est-à-dire qu'en fait, il avait un carnet énorme où il avait écrit comme un journal intime du Joker.
Ouais. C'est vraiment.
Et je sais que je vais passer pour un psychopathe, mais j'aimerais bien lire ce truc.
Ah oui, moi aussi.
Ouais, non, mais ça doit être intéressant, mais enfin, c'est incroyable quand même. Et c'est pour ça, des fois, c'est flippant de voir dans des films des rôles qui sont aussi bien joués, des rôles aussi, aussi sadiques. Comme par exemple, je pensais à. Moi, en fait, quand j'ai vu le film Filth avec James McAvoy, je sais pas si vous l'avez vu, il joue tellement bien son rôle d'ordure. Là, c'est le titre du film. Bien, le mec sale, sadique, limite pédophile aussi, enfin vraiment, voilà, qui a toutes les tares du monde. Et tu te dis, putain, mais comment il fait pour sortir de ce rôle-là quand le tournage est fini, quoi.
Oui, c'est pas faux. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que si on le retient tellement, c'est quand même, entre autres, à cause de la tragédie de Fledger, mais aussi parce que, bien que ce soit le personnage le moins présent à l'écran, parce que ça avait été une étude assez intéressante, finalement, c'est le personnage qui apparaît le moins dans le film, le Joker. Et bah, paradoxalement, c'est aussi le personnage qu'on retient le plus du film parce qu'il incarne vraiment cette anarchie absolue, cette idée du chaos à tout prix.
Et il a une présence pendant 2 heures, en fait.
Ouais.
On le voit pas souvent, mais on en parle tout le temps.
C'est l'idée que c'est une idée plus qu'un personnage, le Joker, en fait.
C'est exactement ça, ouais.
Et c'est ça que j'adore. Et d'ailleurs, qui a très bien été repris dans la série Gotham qui est diffusée en ce moment sur la Fox, où le personnage, en fait, on l'a pas encore vu, mais il y a au moins genre 6 candidats possibles au fait que ce soit le possible futur Joker. Dans la série, tellement ça pourrait être n'importe qui, en fait.
Ça me fait penser aussi à Usual Suspect, le personnage dont tout le monde parle pendant 2 heures.
Kaiser Soze.
Oui, voilà, Kaiser Soze, dont tout le monde parle pendant 2 heures. Personne ne sait qui c'est, personne s'il existe. C'est un peu ça, en fait.
Exactement.
L'idée du Joker, c'est.
J'ai envie de spoiler là, mais
non, spoil surtout pas ce film-là.
Alors, en fait, c'est. C'est le commissaire. Et la personne saura si c'est vrai tant qu'il n'aura pas vu le film.
En fait, c'est Skynet.
Tintin.
Crossover Terminator, je le suspecte.
Musique.
Voilà. Tout de suite, oui, on va s'écouter Cat Stevens, Father and Son, avant de revenir avec le tour d'actualité qui sera très court. Et voilà. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen.
go away. I know I have to go. Time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Father and Son sur Radio Campus Rennes 88.4, vous êtes bien dans Melting Pop, on arrive à la conclusion de l'émission. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, savoir Facebook, Twitter et radiocampusrennes.fr, et que je vous invite à nous donner des retours sur l'émission, ça nous fait toujours plaisir.
On est sur Tinder aussi ?
On est sur Tinder, on est sur InstaFace aussi. Voilà. Voilà.
D'ailleurs, donc, on a reçu un tweet sur notre compte Melting Pop.
Ah bon ?
De Maxime Birken, dédicace. Qui nous disait à quand le live sur Live Jasmine, il a très hâte.
Ça sera la dernière émission de l'année.
Voilà.
Ce sera pendant la nuit, ça sera génial.
On est en train de préparer le contrat.
C'est ça. Puis on est en train de préparer les cash checks aussi.
Ouais.
Ah non, bah non, pas de cash checks. On avait
dit
pas de cash checks,
Fred.
Si,
on
enlève à la fin.
Non, on avait dit pas de cash checks, je suis pas d'accord.
C'est le moment où je me casse.
Bref.
Ça ouvrira avec un strip d'Antoine. Voilà, je préviens juste. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'Arène Théâtre. C'est un festival qui aura lieu du 2 au 14 mai sur le campus de Rennes 2. Dans le bâtiment EREV, salle polyvalente, et l'entrée est gratuite. Alors du coup, j'ai quelques questions pour vous, messieurs. Salut Nico. Il y a Nico qui nous a fait bonjour. Bref, j'ai quelques questions pour